pluie à la commande à l'auto. Puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase à Boulevard 102.1.
Ok, oui, on en jase à Boulevard 102.1. Votre nouvelle émission du midi avec Jeff Fortin, Pascal CV. Donc, on a du plaisir avec vous. 418-971-1021 pour réagir. Vous êtes énormément à le faire. Et on adore. Et je lis justement une réaction de Dina. C'est rare que j'entends parler de mon métier aussi bien dosé. Merci. D'une éducatrice du Centre Jeunesse.
Et voilà. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui d'en parler. 418-971-1021. Si vous voulez écrire, là, même de façon anonyme, vous êtes la courroie de transmission en ce moment.
Exactement. Et on est chanceux, moi et Pascal CV, de compter sur Antonine Iaccarini du lundi au jeudi dans le caucus Iaccarini. Pierre-Luc qui mentionne « Excellent votre nouveau segment. Vous êtes devenu la radio que je cherchais depuis si longtemps. Pouvoir parler d'actualité et de politique en critiquant sans devenir négatif et frustrant pour l'auditoire. » Ben, c'est en plein la mission de Boulevard 102.1, Pierre-Luc. Merci beaucoup. On veut faire de l'actualité, on veut faire de l'affaire publique, on veut faire de l'opinion, mais de façon dosée et de façon à ce que vos oreilles ne saignent pas et que vous continuez à nous écouter avec passion. On va aller rejoindre une personne, une dirigeante politique qui n'a pas froid aux yeux et qui est toujours prêt à venir discuter avec nous à Boulevard 102.1. C'est la co-porte-parole de Québec solidaire, Mme Ruba Gazal. Mme Gazal, comment allez-vous ce matin?
Très bien, merci beaucoup, M. Fortin, pour l'invitation.
Ça fait plaisir ce matin. Il va falloir que je m'habitue que j'anime le midi maintenant puis que je ne suis plus juste co-animateur le matin. Mais ça, ça c'est va bon. Venir. Ne vous inquiétez pas. Madame Gazal, pas le choix. Je commence avec la commission Galant. Passage de François Legault et de Martin Koskinen hier. Passage des Voilettes ce matin. Qu'est-ce que la co-porte-parole de Québec solidaire retient de tout cela?
Je retiens que c'est un triste spectacle que M. François Legault, son entourage, offre à la population. Alors que les gens ils ont de la misère à arriver, même avec une ou deux, trois jobs pour pouvoir payer leur épicerie, pour payer leur loyer. Hein, on a vu l'augmentation des prix des loyers pour payer leur hypothèque. Ils en arrachent, ils payent des impôts, ils sont pas capables d'avoir les services de santé, d'éducation auxquels ils ont droit. Et en plus de ça, il y a un gaspillage éhonté, là, quoi, un dépassement de coûts de un demi-milliard de dollars de leur argent dans un fiasco, ça clique. Et on voit là, le premier ministre dire « Je n'étais pas au courant de rien. »
Oui, le croyez-vous, le premier ministre, quand il dit ça, « J'étais pas au courant de rien. » Croyez-vous à cette version-là de François Legault?
C'est difficile à croire. C'est difficile. Moi, je trouve ça difficile à croire qu'il ne le savait pas. Maintenant, on est obligé de le croire sur parole puisqu'il le dit. Il le dit sous serment. Est-ce qu'il l'a oublié? Est-ce que, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ces ministres, eux, ça a été démontré par la commission. Ça n'a pas été le cas avec François Legault, que ce soit Geneviève Guilbeault, François Bonnardel, qui disaient tout le temps qu'eux autres, on leur a menti. C'est les fonctionnaires, c'est la SAC qui leur a menti puis qu'ils n'étaient pas au courant avant le dépôt du rapport de la vérificatrice générale. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était pas vrai. Ça a été démontré qu'ils étaient au courant avant, puis ils sont juste passés à autre chose. Même François Legault l'a reconnu. Ils auraient dû poser plus de questions, puis ils l'ont pas fait. Donc, c'est un spectacle désolant qu'on offre à la population québécoise alors qu'elle fait face à plein de crises et dont le gouvernement devrait s'occuper. Puis pendant ce temps-là, on a ce fiasco-là devant nous.
Maintenant, on parle de prorogation de l'Assemblée nationale pour permettre à la CAQ de se réorienter, d'y aller d'un nouveau conseil des ministres. Le temps qu'ils prennent connaissance de leur dossier, on parlerait peut-être d'un retour après l'action de grâce. Est-ce que c'est un outrage à la démocratie de procéder de cette façon-là?
Pour nous, à Québec solidaire, et on le dit, puis je le redis ici devant vous, fermer le Parlement, hors de question. Nous, là, les députés, les 12 députés de Québec solidaire, on est prêts à travailler. Et donc, le 16 septembre, on est prêts. C'est là que la session, normalement, devrait être ouverte. On est prêts. Et M. François Legault, je le mets au défi de venir à l'Assemblée nationale puis de répondre à nos questions. Moi, pendant tout l'été, oui, j'ai eu des vacances, mais je suis quand même allée à la...
Vous allez lui poser quoi comme question? Vos premières questions seraient quoi pour François Legault?
Des coupes en éducation. Hein? Bernard Drainville, il a pris tout le monde partait en vacances, puis il a dit, tiens, on va couper en éducation. Ça a créé un chaos. Il y a eu une mobilisation des parents. Moi, je suis très proche des parents de gens dans le système d'éducation qui se sont mobilisés. Et plus tard, il est allé remettre de l'argent, mais ça enlève pas du tout le chaos qu'il y a dans nos écoles en ce moment. Fait que je lui poserai des questions. Monsieur François Legault, vous dites que l'éducation, c'est une priorité, puis c'est la raison pour laquelle vous êtes en politique. Qu'est-ce que vous répondez à l'enfant en difficulté qui est pas capable d'avoir sa psycho-éducatrice parce qu'elle a été coupée, puis finalement, elle va revenir plus tard, puis à temps partiel? C'est un chaos. C'est ça que je poserai comme question sur la crise du logement, sur l'itinérance. Il y a plein de choses, il y a plein de crises auxquelles on fait face, et le gouvernement et François Legault doivent répondre. Il avait tout l'été pour nommer ses ministres. D'ailleurs, c'est très rare qu'un premier ministre annonce son intention de faire un remaniement aussi à l'avance. Il l'a fait quoi? On n'était même pas encore en vacances fin juin. Il avait tout l'été pour faire son remaniement. Mm-hmm. Là, si lui est en retard et il n'est pas prêt, ben c'est pas aux Québécois de payer le prix.
Mais est-ce que vous pensez que le remaniement est une bonne chose? C'est quand vous êtes dans l'opposition, vous voyez ça venir. Souvent, c'est une stratégie politique beaucoup plus de surface et d'apparence, peu importe le parti en place à l'aube d'une campagne électorale comme ça. Vous en pensez quoi, vous? Parce qu'il y a le discours de l'opposition habituel, mais un remaniement du type, vous n'allez pas pouvoir frapper sur les mêmes têtes sur lesquelles vous frappez depuis longtemps. Vous allez peut-être vous faire accuser de frapper sur des nouvelles têtes qui prennent de nouveaux mandats, donc il faut leur laisser du temps. Et peut-être même, vous allez peut-être accuser la CAQ d'être en superficialité là-dedans. Ça serait quoi votre position?
C'est du théâtre. C'est une mise en scène qui est faite par le gouvernement. Peu importe qui il va nommer, c'est le même gouvernement. C'est pas quelque chose d'individuel. C'est le même gouvernement qui prend des décisions. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas aucun ministre qui peut aller de l'avant dans ces dossiers. Ils ont peut-être un carré de sort d'une certaine liberté, mais ils peuvent pas faire des grands changements ou prendre des grandes décisions sans que le premier ministre ait accepté ou que l'argent soit disponible. Et ça, c'est des décisions qui viennent en haut lieu. Donc, peu importe qui on place, c'est le même gouvernement, c'est la même équipe. Donc, ils peuvent pas se cacher derrière le changement des personnes. C'est la CAQ qu'on a devant nous. Donc, nous, on se laisse pas démonter par le théâtre et la mise en scène que nous fait François Legault parce qu'il est désespéré.
Prière de rue, Mme Gazal, vous en pensez quoi? Nos auditeurs sont en furie de voir que ça prend de l'ampleur à Montréal. Ils ont peur que ça s'en vienne à Québec. Ils prônent la laïcité à travers la province. Quel est le point de vue de Québec solidaire par rapport aux prières de rue?
Écoutez, je vous parle maintenant de tous les échecs de François Legault. Il y a Northvolt qu'on n'a pas parlé, il y a Saclic.
Oui, ça s'en vient. Ça s'en vient Northvolt, ouais. Mais je veux qu'on parle de prière de rue.
Exact, mais il y a tout ça qui s'en vient. Et François Legault, évidemment, il sort sa carte de la diversion habituelle en disant qu'il y a une crise nationale de prière de rue. Moi, je veux juste qu'on s'entende sur quelque chose. Ça existe, il y en a. Moi, j'habite à Montréal depuis très longtemps, j'en ai jamais vu personnellement. Ça met les gens, ça met certaines personnes mal à l'aise et c'est tout à fait leur droit. Mais la situation est beaucoup plus nuancée et beaucoup plus délicate que ce que la CAQ et le Parti québécois, d'ailleurs, veulent laisser paraître en disant qu'il y a une crise nationale. Moi, j'invite vos auditeurs et auditrices à lire le papier d'Isabelle Haché de cette semaine, qui, elle, est allée à la rencontre de ces gens-là puis qui apporte des nuances intéressantes.
Mais pour ou contre du côté de Québec solidaire pour les prières de rue?
Bien, en fait, les lois actuelles, moi, en ce moment-là, une personne ne peut pas bloquer la rue pour faire des prières, comme elle ne peut pas bloquer la rue à n'importe quel moment pour après ça faire une manifestation ou faire du yoga ou que sais-je. Elle ne peut pas faire ça. Les lois actuelles permettent au gouvernement d'agir. François Legault a déjà en main, légalement, juridiquement, les moyens d'agir quand les prières de rue, si les prières de rue ne respectent pas la loi actuelle, il n'y a pas besoin...
Mais admettons une prière de rue devant la basilique Notre-Dame qui n'est pas dans la rue, qui est sur un terrain vacant, mais qu'on vient le faire devant une basilique catholique avec une prière de rue de religion islamique. Vous en pensez quoi? Pour ou contre?
C'est ça. Là, vous parlez d'un moment, parce qu'il n'y en a pas tout le temps, à tous les jours, à toutes les fins de semaine, partout. Il y a un moment où il y a eu cette prière de rue et Isabelle Haché est allée à la rencontre. Moi, je ne les ai pas rencontrés. Est allée à la rencontre et c'était ça dans le cadre d'une manifestation qui était déjà prévue et approuvée par la police. Donc, il n'y avait rien d'illégal, illégitime. Maintenant, je vous le dis, s'il y a des gens qui se sentent mal à l'aise avec ça, personnellement, ils ont tout à fait le droit. C'est légitime. Après ça, moi, il y a plein de choses que je vois dans la rue qui me mettent mal à l'aise. Est-ce qu'on va sortir une loi à chaque fois? Ce qui est important, c'est qu'on respecte le cadre légal. Et si cette prière-là était une entrave et ne respectait pas la loi, il aurait fallu intervenir et les lois actuelles le permettent. Et comme je vous dis, il y a beaucoup plus de nuances. François Legault, tout ce qu'il essaie de faire, c'est de cacher ses échecs en faisant diversion puis en faisant parler tout le monde d'une crise nationale des prières de rue. Moi, je suis dans un quartier central, dans mon comté de Mercier. Je regarde en bas, ce que je vois, ce n'est pas des prières, c'est des itinérants qui sont couchés par terre. C'est ça la crise à laquelle on fait face en ce moment au Québec.
Oublions la partisanerie pour cette question-là. Ruba Gazal, vous êtes au sein de Québec solidaire. Vous prenez la parole, vous faites entendre, vous faites quand même rayonner votre parti d'une certaine manière parce qu'on vous tend les micros depuis un bout. Si on oublie la partisanerie, la découpe des partis politiques, cet enjeu-là dont on vient de jaser les prières de rue, vous allez comprendre peut-être ma question. Si vous ne la comprenez pas, faites-moi répéter dans d'autres mots parce que j'aimerais vraiment une réponse à cette question-là. Actuellement, il y a des commentaires parfois déplaisants à entendre. Il y a une séparation de certaines cultures qu'on voit à Québec, qu'on voit à Montréal. C'est pas toujours une inclusion qui est facile. Est-ce que de mettre un règlement, vous pensez que ça va faire en sorte de pas trop attiser la haine de l'autre, la peur de l'autre et peut-être aider à un vivre ensemble commun? Et je tombe vraiment pas dans une technicalité à vouloir brimer l'autre. Je me demande si on n'est pas en train de juste régir la façon de vivre en société et de mélanger les cultures actuellement en se respectant tous et chacun, en mettant une délimitation.
Bien, c'est quand on vit en société, même si on est tous de la même culture, puis qu'on a les mêmes origines puis les mêmes racines, il y a des règles qui existent. Et ces règles-là sont fondamentales. C'est pas chacun qui vit tout seul dans son coin puis qui veut pas parler avec personne. Il y a des règles qui existent qui régissent notre façon de vivre en société. Et c'est tout à fait sain et c'est même nécessaire pour que moi, si j'ai une liberté que je veux exprimer, c'est important qu'elle vienne pas brimer l'autre. Puis vous parlez à quelqu'un qui, je veux dire, moi, je suis québécoise, totalement, entièrement québécoise, mais je suis quand même née à l'étranger. Je suis née au Liban, dans une famille palestinienne. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 10 ans. Je parlais pas un seul mot de français. Et j'ai appris, puis j'ai construit mon identité québécoise, pas en restant tout seul avec mes parents à parler arabe. Là. C'est ma langue maternelle. C'est cette langue-là que je parle quand je suis dans ma famille. Et je l'aime et je la préserve. Mais j'aime aussi le français. Puis ça, comment je l'ai appris? C'est parce qu'il y a eu cette vie en société où est-ce que mes parents auraient même pas pu, s'ils avaient voulu m'envoyer dans une école anglophone ou musulmane ou peu importe, ils auraient pas pu. Ils étaient obligés, à cause d'une loi que j'adore, la loi 101, et moi je suis une fière enfant de la loi 101, qui a obligé mes parents, par chance, et moi je suis très contente de ça et eux aussi, que j'aille dans une école francophone, québécoise, puis que j'apprenne pas uniquement la langue, mais que j'apprenne aussi la culture. Mm-hmm. Moi, j'ai appris le français en chantant des chansons de Félix Leclerc. Je suis arrivée en 88, il venait de mourir il y a pas longtemps. Je le savais pas. Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait que je chante C'était un petit bonheur et tout ça. Et ça, c'est parce qu'il y a une loi qui nous a obligés à faire ça. Et notre professeur, je me rappelle, il nous obligeait, c'était avant les réseaux sociaux, à regarder la télé. Ben moi, j'étais rendue déjà vieille, mais c'est pas grave. Je comprenais beaucoup mieux le français de passe-partout parce qu'il était simple, il parlait l'enfant.
Donc, vous comprenez...
Et j'ai appris le français, là, pourquoi?
Vous comprenez ces règlements-là qui sont mis en place, peut-être, pour délimiter la place d'une culture?
Ben c'est exactement ce que je vous dis depuis le début. Ces lois-là existent. Et je suis d'accord avec ça. Je peux pas maintenant, moi, fermer la rue. Ça existe en ce moment juridiquement. Et François Legault le sait très bien. Il le sait très bien. Mais comme il veut faire diversion, comme il le fait tout le temps, pour cacher ses échecs qui font qu'il y a du gaspillage. Ah, c'est un gouvernement de comptable là, qui le dit. Regardez le gaspillage. C'est des milliards de dollars qu'on gaspille. On a un déficit historique avec un gouvernement de gestionnaires et de comptables. Moi, je suis comptable. Hein, j'ai ça en commun avec François Legault. J'ai un bac en administration des affaires, des HEC en comptabilité. J'ai déjà travaillé là-dedans et je sais compter. Et il y a un gaspillage éhonteux de notre argent. Pendant ce temps-là, il nous parle de crise, de prière. Oui, s'il y a des gens qui dérangent puis qui ne respectent pas la loi, il faut faire appliquer la loi. Il faut sévir. Et ces outils-là existent. Il y a des juristes qui nous l'ont dit, ils existent. Mais le gouvernement préfère ajouter une loi pour que ce soit la discussion de l'année, de la semaine, et faire oublier tous ces échecs. Mais moi, je peux vous dire qu'en cette année préélectorale, les Québécois ne sont pas dupes, puis ils n'oublieront pas qu'en ce moment, tout coûte extrêmement cher, puis le gouvernement gaspille notre argent.
Elle est co-porte-parole pour le Parti Québec solidaire. Elle souhaite faire son retour à l'Assemblée nationale le 16 septembre. On va suivre ça attentivement dans l'actualité s'il y aura prorogation de l'Assemblée ou non. Madame Gazal, merci beaucoup pour votre temps sur les ondes de Boulevard 101 aujourd'hui. Au plaisir de se reparler bientôt.
Merci beaucoup, à vous aussi, au revoir.
Merci, au revoir. C'était Ruba Gazal. On va en parler un petit peu plus en détail avec Lambert Drainville tout à l'heure. J'avais demandé d'écouter l'entrevue, mais chose certaine, on n'a pas de positionnement clair de QS non. Par rapport aux prières de rue.
Non, j'entends beaucoup d'accord avec le fait qu'on positionne un règlement, mais un certain désaccord avec le fait que ça soit fait pour ça.
Exactement.
Peut-être pour un apport, que, ben, dans ce cas-ci, c'est religieux, là, à être exprimé, là, si je peux le dire comme ça. J'ai l'impression qu'elle est d'accord avec le fait que certaines religions prennent une certaine place dans la société, mais aussi d'accord avec un règlement qui pourrait être mis en place pour avoir une délimitation.
C'est ça, mais elle revient au cadre légal actuel. Elle ne veut pas, ce qu'on en comprend, créer une nouvelle loi pour ça. Alors, ça reste un positionnement qui
un
est
peu
flou. Puis en politique, quand t'es flou, tu parles à personne.
Mais tiens, en même temps, Québec solidaire n'a pas à se positionner de façon très... accrue en ce moment parce que c'est pas dans les intentions de vote, dans les plus hautes au Québec en ce moment. Ils pourraient perdre énormément d'adhérents. Je pense que le fait d'être flou leur sert en ce moment.
Oui, peut leur servir.
Mais dans la façon de prendre la parole, ça semble trancher. C'est juste que nous autres, toi et moi, on aime ça creuser puis dire non, ça c'était flou finalement.
C'est ça. J'ai appris que Ruba Gazal a un bac en administration, un baccalauréat en administration, donc elle est une comptable comme François Legault. Et là, Pascal, je sais pas si tu voulais commencer avec cette nouvelle-là, mais il y a un autre comptable à la tête du Canada, c'est Mark Carney. Puis il parle d'austérité, Mark Carney, par rapport au prochain budget où on fera des coupes dans la fonction publique. On va avoir Gabriel Giguère qui va venir nous en parler justement demain de l'Institut économique de Montréal. Mais sinon, quoi surveiller dans l'actualité?
Oui, beaucoup de choses en termes de dossier. C'est sûr qu'on va reparler de tout ce qui concerne la fillette de Granby un peu plus tard à l'émission. Sinon, ce qu'on peut dire dans les rapports actuels, c'est Sam Ahmad qui revient dans l'actualité.
Ben oui!
Avec
des images
de New York pour illustrer Québec. On pensait qu'après Descaries, c'était terminé parce qu'on avait pris des images de Descaries.
Non, on a eu l'Ontario pour la fête du travail.
Exact, mais on a pris Descaries pour illustrer le trafic ici à Québec. Là, on se dit, ouais, c'est à Montréal, ça peut nuire un peu dans les conversations. Ensuite, il y a eu l'autre frasque de la fête du travail. Cette fois-ci, ce sont de nouvelles erreurs qui s'ajoutent aux candidats de la mairie qui ont été dénichés sur les réseaux sociaux de son parti encore une fois. Là, on est rendu à éplucher ça parce qu'on nous en donne du stock. La page Facebook du parti dirige les internautes vers deux mauvais liens, puis il y en a un qui inclut celui du site Internet de la formation politique. Et ce qu'on voit, ce sont des images de New York, entre autres, là, pour parler de projets de transport structurant ici. Il faut savoir peut-être que ça a été fait au moment où on a eu une consultation at large, puis toutes ces frasques-là étaient divulguer et opérer au même moment, mais il aurait peut-être fallu aller gérer ce qu'on avait fait auparavant pour pas que ça retourne dans l'actualité et que ça ajoute en fait à un peu ce qu'on se trouve ridicule, mais en
ben
même
oui.
temps déphasé.
Ben vraiment, à New York pour illustrer Québec, pour aider les bénévoles de Leadership Québec qui travaillent très fort sur les médias sociaux, Google, j'ai tapé Ville de Québec et j'ai cliqué sur l'onglet Images. Oui. Et là, on me donne des images de la Ville de Québec. Puis si vous voulez être sûr que vous êtes à la Ville de Québec, là, il y a le Château Frontenac.
Ça aide.
On peut pas se tromper avec le Château Frontenac.
Ils ne pourront pas prendre ces images-là parce qu'il y a des droits d'auteur puis des droits là-dessus. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi que ça peut aider à savoir qu'est Québec, visuellement
parlant. Si tu veux montrer Québec, pense Château Frontenac.
Sinon, avec les drones qu'on connaît aujourd'hui, je suis certaine dans leur entourage, ils peuvent aller capter des images faciles.
Ça devrait bien aller.
Mais c'est ça, c'est qu'on voit à la mention du centre-ville et de Sainte-Foy une série d'images dans la vidéo, puis c'est des gratte-ciels qui ne représentent pas Québec du tout. En fait, c'est plutôt New York qui
Comment
est présenté.
On fait pour mélanger les gratte-ciels à Québec qui sont à peu près inexistants et les gratte-ciels de la ville de New York?
Je pense que, écoute, sérieux, quand j'essaie d'expliquer la situation, je me suis dit qu'ils se sont juste dit on va prendre des images de gratte-ciels. Puis ça va être ça qu'on va mettre. On va prendre des images de bouchons de circulation, puis ça va être ça qu'on va mettre. Puis on peaufinera par la suite. On ne veut pas investir là-dedans. On garde l'argent dans nos coffres. On forme un nouveau parti. On va avoir ce financement-là pour d'autres choses, j'avoue. Mais dites-le comme ça. Peut-être d'aller de l'avant en disant on n'a pas voulu dépenser pour des images, c'est on ça. S'excuse, on sait que c'est un peu erroné ce qu'on vous présente, mais on voulait des gratte-ciels, puis ce sont des gratte-ciels. Ça, c'était libre de droit, puis on le fait. Mais honnêtement, ça commence à être un peu ridicule parce que pour sa maman, sa défense depuis le début, c'est de mettre ça sur les épaules de ses bénévoles et non d'expliquer la situation comme étant « Hey, c'est un détail. »
Mais là, quand il y a une erreur à chaque jour, à un moment donné, ça peut pas juste être la faute des bénévoles.
Ben, c'est parce qu'on a pris position en disant « Oh non, ça nous dérange. » Et là, en disant « ça nous dérange », ce type de frasque-là, bon, on continue d'éplucher et de les faire rayonner.
Yes.
Sinon, donc, tout le monde aurait su pour la SAAQ, clic, sauf le premier ministre. Vous savez, il y avait son témoignage dans les dernières heures et il a témoigné à la commission d'enquête publique pour la commission Galant. C'est un peu fou parce que ce qu'on dit, c'est que c'est deux différents secrétaires généraux du gouvernement qui savaient, les ministres et les cabinets savaient, c'était dans les médias. Il y avait un déploiement chaotique, mais François Legault serait resté dans l'ignorance quant à l'exposition des coûts de la SAQ et l'explosion aussi de cette enveloppe budgétaire-là. Il y a Yves Ouellet qui témoigne aujourd'hui. Il dit qu'on n'a jamais parlé de dépassement de coûts, d'ajout simplement d'enveloppe pour mener à terme le projet. Il aurait expliqué que les coûts du projet, ça a explosé, oui, mais durant la campagne électorale de 2022 et à aucun moment, le document révélant des dépassements de coûts lui aurait été présenté. C'est qui Yves Ouellet? C'est l'ancien secrétaire général du gouvernement. C'est pas rien. Haute position quand même au sein de la CAQ. Également, si on revient ici pour Leadership Québec.
Oui.
Nouveau candidat.
Hugo Langlois.
Hugo Langlois, l'animateur qui sera candidat pour le parti de sa maman. Vous savez, c'était présenté aux dernières
élections. Oui, aux dernières élections fédérales. Puis honnêtement, ça n'a vraiment pas bien été pour lui dans Beauport-Limoilou. Les conservateurs étaient vus comme étant le parti qui pouvait prendre cette circonscription-là. Finalement, c'est les libéraux avec Steve Lavoie, l'ancien PDG de la Chambre de commerce et d'industrie. Hugo Langlois a terminé troisième derrière le Bloc québécois.
Tu sais, à ce moment-là, moi, ce que je disais en onde, c'était-tu un déficit de CV, de curriculum vitae? Ouais. T'as un gars qui était à Chambre de commerce, là, tu sais qu'il est ferré, qu'il y a des négociations, que la politique, il connaît, puis il a sûrement travaillé avec le provincial puis le fédéral, peut-être à être personne interposée et autres. Écoute, c'est une assurance. Là. Et peut-être qu'on s'est dit, ben nous, on a besoin d'un candidat qui va être capable de mener à terme, pas quelqu'un qui commence nécessairement en politique. Souvent, on déplore que c'est beaucoup de la communication maintenant versus, bon, une réelle qualité de politicien qui en a vu et d'homme d'affaires et tout ça. Donc, c'est peut-être ça qui a miné Hugo Langlois au fédéral. Chose certaine, il se présente maintenant avec Leadership Québec. Leadership Québec, ouais. Avec sa maman. c'est trois nouvelles candidatures, en fait, qu'on a ajoutées et celle de Hugo Langlois, qui est animateur radio-télé depuis quelques années, a été officialisé dans le district de Vanier-du-Berger, donc Les Rivières.
Ça va être une occasion de voir si la notoriété a un impact dans la campagne municipale parce que Hugo Langlois va se coltailler contre Clément Boudreau de l'équipe Québec Forte et Fière dans Vanier-du-Berger. Clément Boudreau, c'est qui? C'est un administrateur de la ruche à Vanier, bien connu dans le milieu communautaire, dans le milieu du logement social. Donc, est-ce que c'est le gars de terrain, Clément Boudreau, qui va l'emporter ou la notoriété avec Hugo Langlois? Ça va être très intéressant à suivre la bataille dans cette circonscription-là. Une petite dernière pour la route?
Oui. Est-ce que tu as vu la politique fédérale en ce moment attire l'attention avec Mark Carney? Parce qu'on parle de budget.
Oui.
Il y a des affaires qu'on tentait de laisser présager au fédéral avec la candidature de Mark Carney, c'est que ça allait être en rien ce que Justin Trudeau nous avait offert côté économie.
L'économiste!
Et là, ce qui est sorti, écoute, c'est un mot très fort qui a coûté très cher autrefois au provincial à Philippe Couillard, et c'est le mot austérité.
Oui.
On ramène ce mot-là, qui est un genre de Voldemort, qui est un mot qui est honnêtement jamais utilisé en politique depuis.